RFI 9h30 à Khartoum et Paris, 2h de moins en temps universel. L'information africaine ce matin avec vous, Vincent Dublange, et ce sont des reportages rares que RFI vous présente cette semaine. C'est par l'un d'entre eux que débute votre journal.
Oui, une plongée dans Khartoum, au Soudan. Notre envoyée spéciale a pu s'y rendre, elle a pu interroger notamment les civils soudanais, soudanaises. Nous allons dans une minute à la rencontre de celles et ceux qui doivent à nouveau fuir depuis que les paramilitaires FSR prennent leur quartier pour cible. Les hommes du général Hametti qui ont perdu le contrôle de la capitale, mais qui harcèlent les troupes de l'armée régulière soudanaise. Décryptage dans cette édition des tensions qui demeurent au Burkina Faso au sein de l'armée. La stratégie anti-terroriste ne semble pas faire l'unanimité. Au Sénégal, Moustapha Niass tourne la page de sa riche vie politique. Le congrès de son parti avait lieu hier. On va évoquer la candidature du caftan marocain au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et puis le journal des sports dans 10 minutes, portrait d'un des 12 finalistes du prix FOE, du meilleur footballeur africain de Ligue 1, le milieu sénégalais de Strasbourg, Habib Diarra. On parlera aussi basket Africa League et tour cycliste du Bénin. Ça fait un peu plus d'un mois que l'armée régulière soudanaise a revendiqué la prise de la capitale, Khartoum. Les paramilitaires FSR l'ont reconnu à demi-mot quelques jours plus tard. Un simple repositionnement, a dit leur chef, le général Hametti. Ses forces, les paramilitaires, quoi qu'il en soit, harcèlent depuis lors les troupes du général Burhan. Les FSR sont à l'ouest et au sud de la capitale Khartoum, notamment à proximité de la ville jumelle d'Omdurman. Les civils, eux, sont pris entre deux feux. Radio France Internationale a pu se rendre dans la zone des combats. C'est le début d'une série de reportages au plus près des habitants de Khartoum et de ses villes sœurs. Envoyé spécial, Gaël Alex.
À Ombada, dans la banlieue ouest de Khartoum, les habitants vivent au rythme des canons. Kafi Bourgane a 82 ans, il est à bout de force.
Quand on entend les bombardements, on se couche sous les lits pour se protéger. C'est terrorisant, c'est impossible de dormir. Jour et nuit, les FSR bombardent, puis l'armée bombarde. On ne peut pas fermer l'œil.
Samira Idriss a quitté sa maison du quartier d'Alara, encore tenue par les FSR. Avec sa famille, elle vit chez des proches à Ombada. Malgré les tirs croisés, elle s'y sent plus en sécurité.
Les FSR venaient chez nous n'importe quand et ils criaient « Donnez-nous vos enfants, vos filles et tout ce que vous avez ». Et ils prenaient tout de force. Ils n'ont pas pris mes filles, mais mes voisins n'ont pas eu cette chance.
Les combats se rapprochent. Aïcha Mohamed Nourienne a décidé de partir. Ce jour, avec sa famille, elle quitte Ombada et le logement de fortune qui les accueille.
Les FSR ont fermé les marchés. Il est très dur de trouver de la nourriture et il faut marcher des kilomètres pour l'eau. Nous sommes 3 familles ici et nous ne pouvons pas rester. Les hommes sont partis chercher de l'eau et de la nourriture. On décidera ensuite où aller.
Comme plus de 11 millions de Soudanais aujourd'hui déplacés, la famille d'Aïcha s'installera dans une école d'Omdurman, transformée en camp de fortune. Gaël Alex, de retour de Khartoum, Nairobi, RFI.
Vous écoutez Radio France Internationale, il est 7h quasiment 34 minutes à Ouagadougou, au Burkina Faso, depuis que la junte a annoncé la semaine dernière avoir déjoué un coup d'État. La situation au sein de l'armée reste tendue. D'après des observateurs, derrière le calme apparent se cachent en réalité des divergences profondes sur la conduite des opérations de lutte antiterroriste, anti-djihadiste. Une réunion devait se tenir à l'état-major, mais les officiers qui devaient s'y rendre n'ont jamais répondu à l'appel. Alexis Guilleux.
Prévu mardi, puis reporté mercredi, la réunion n'a finalement jamais eu lieu, expliquent plusieurs sources. En revanche, certains proches du palais du Mogonaba ont observé dans la semaine un ballet d'hommes en treillis et d'épouses de militaires et de civils enlevés. Le roi des Mossiles, Ouagadougou, est connu pour son rôle de médiateur dans de nombreuses crises au Burkina Faso. La tension s'est également illustrée jeudi au palais présidentiel autour d'un conseil des ministres placé sous haute sécurité. Selon plusieurs habitants de Ouagadougou, des chiens renifleurs ont sillonné le périmètre le temps de la réunion. Union et des hélicoptères des forces armées ont été aperçus dans la zone à plusieurs reprises. Hier, dimanche, autre fait inhabituel, des riverains assurent que 2 véhicules blindés étaient positionnés devant le camp général Babassi, au sud de la capitale. Au regard de la situation, les soutiens du régime appellent à manifester leur soutien au capitaine Ibrahim Traoré ce mercredi. Pour les organisateurs, cette mobilisation a pour but de dénoncer les ingérences occidentales en réaction aux récentes déclarations du général Michael Langley, le leader du commandement américain pour l'Afrique, qui début avril a accusé le pouvoir en place d'utiliser l'or du pays au détriment de la population.
Alexis Guilleux. Au Togo, on célébrait hier le 65e anniversaire de l'accession du pays à l'indépendance. Côté officiel, il y avait un défilé militaire et civil, plusieurs heures, sur la place des fêtes de Lomé 2, non loin de la présidence de la République. L'opposition, elle, togolaise, entendait organiser un meeting populaire, mais il a été finalement reporté sine die. RFI Lomé, Peter Sassou Dogbé.
Pendant près de 3 heures, tous les corps de l'armée, gendarmerie, air, marine et terre, ont paradé sur un pas cadencé devant le président Faure Gnassingbé et les personnalités rassemblées sur la place des fêtes de Lomé 2. À l'occasion de cet anniversaire, un meeting populaire était prévu par les organisations de la société civile et quelques partis de l'opposition sur la plage de Lomé. Il a été reporté sine die à la demande du ministère de l'administration territoriale. Une injustice, selon le professeur David Dosset, porte-parole de la coalition Togo Debout.
On a le sentiment que lorsque ce sont certains groupes qui organisent des événements, ils ont toute l'autorisation. Et c'est pour cela donc que certains ont été autorisés à ériger des apatam à côté de là où nous avions prévu faire notre manifestation, et que quand c'est d'autres groupes, c'est surtout des interdictions que ces groupes essuient.
C'est la dernière célébration de la fête de l'indépendance de la 4e République togolaise. La 5e République doit définitivement entrer en vigueur dans les prochaines semaines, le temps de mettre en place les nouvelles institutions issues de la Constitution du 6 mai 2024. Peter Sassou Dogbé, Lomé, RFI.
Au Sénégal, ce passage de témoin au sein du parti de l'Alliance des Forces de Progrès, l'AFP. La formation tenait son congrès ce week-end et Moustapha Niass, figure emblématique du paysage politique sénégalais, a cédé la place à la tête de l'Alliance des Forces de Progrès à son successeur Mbaye Ndion. Mbaye Ndion, c'est le député maire de Ngoundiane, près de Thiès et de Dakar. À 85 ans, Moustapha Niass tourne donc une page d'une longue carrière politique, puisqu'il a collaboré avec finalement les différents présidents depuis Senghor et jusqu'à Macky Sall. Il avait rompu avec le Parti Socialiste et Ousmane Tanor Dieng. Il a fondé l'Alliance des Forces de Progrès, c'était à la fin des années 90. Il devient ensuite Premier ministre. Plus tard, il est président de l'Assemblée nationale pendant 10 ans, de 2012 à 2022. En tout, Moustapha Niass a pris part à 5 présidentielles. Son parti est plutôt en perte de vitesse et son retrait s'inscrit finalement dans un contexte de renouvellement assez profond de la classe politique sénégalaise. C'est l'analyse en tout cas de Moussa Diaw, qui est professeur de sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis.
On peut le rappeler, à la première alternance, il avait obtenu 11 députés à l'Assemblée nationale. C'est vrai qu'il y a une érosion de son parti au regard mais d'ailleurs de l'évolution politique du Sénégal. La plupart des partis qui étaient au pouvoir ont perdu de leur influence. C'est valable pour le PS, le PDS également. Ce sont des partis qui ont perdu leur influence en quittant le pouvoir. Il y a un tournant et il faut s'adapter à ce tournant. Le passage de relais de Moustapha Niass montre bien les exigences de l'espace politique sénégalais, c'est-à-dire la nécessité de changer des partis politiques, de mettre des personnalités avec de nouvelles idées, des jeunes. Le changement à la tête des partis, je ne sais pas si ce sera suffisant ou pas, mais dans tous les cas, les défis sont nombreux et il va falloir effectuer beaucoup de changements au niveau du discours également et au niveau de l'action politique pour pouvoir mobiliser autour d'un certain nombre d'enjeux.
Un propos recueilli par Juliette Dubois. Le caftan pourrait bientôt être inscrit sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité de l'UNESCO. C'est ce qu'espère le Maroc qui a déposé un dossier pour le vêtement emblématique. L'UNESCO donnera son verdict en décembre prochain, Mathias Reynal.
Mariage, fête religieuse, rite de passage à l'âge adulte. Au Maroc, le caftan est le costume d'apparat par excellence, le vêtement que l'on porte lors des cérémonies importantes.
Le caftan, c'est porté aussi bien par les femmes que par les hommes. C'est une tunique longue qui n'a pas cessé d'évoluer, bien sûr, depuis l'époque médiévale jusqu'à nos jours.
Mustapha Jlok est anthropologue, directeur du patrimoine au ministère de la Culture. Il a participé à la constitution du dossier marocain.
Nous avons démontré que c'est un élément de la tradition vivante des Marocains. C'est pas une invention. Tout le monde connaît le kaftan marocain, ce qu'il représente dans les communautés marocaines, dans la société marocaine.
Comme d'autres éléments du patrimoine artisanal, le kaftan est devenu ces dernières années un enjeu identitaire et même géopolitique, cristallisant les tensions entre voisins marocains et algériens.
Le kaftan, c'est un des marqueurs, et sinon parmi les plus grands marqueurs de l'identité culturelle marocaine, et qui est pour le Maroc un symbole effectivement de sa civilisation et de son histoire millénaire.
La validation du dossier par l'UNESCO serait sans nul doute interprétée par certains comme une victoire de Rabat dans la bataille culturelle qui l'oppose à Alger. Mathias Reynal, Casablanca, RFI.
Et on va prendre un peu d'avance sur le journal des sports. On va terminer cette édition avec du tennis et cette grande première à domicile. Eliakim Koulibaly a remporté son premier tournoi Challenger ATP, celui d'Abidjan. Hier, le numéro 1 ivoirien a battu le numéro 1 africain, Aziz Dougaz, en finale, 2-1. Eliakim Koulibaly qui gagne 54 places et est désormais 270e au rang mondial. Il est au micro de Molamine Sissavané.
C'est la première fois qu'on organise ce tournoi et c'est la première fois que je gagne mon premier titre challenger en plus chez moi. C'était un peu stressant, on a eu des problèmes avec la pluie et tout. Dans le tie-break, je menais 3-0 et après j'ai perdu le premier set et après je suis rentré dans une zone. Quand je rentre dans cette zone, c'est vraiment difficile. Donc j'entendais plus rien, j'entendais plus le public, j'étais vraiment focus sur moi-même. Et finalement, ça a marché, donc je suis très 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 content. C'est le fruit d'un travail très acharné. C'est pas facile pour moi, je viens de très loin. Ceux qui me connaissent, qui connaissent mon histoire, savent que je viens de très loin. Mais moi, j'ai pas lâché. Comme j'ai dit depuis le début, j'ai continué de bosser. Et c'est le travail qui paye. L'objectif, il est pas atteint, faut continuer de bosser. L'objectif, c'est de jouer les qualifs de Grand Chelem. Il me manque encore 40 places à franchir. Donc, va falloir travailler dur, ne pas se reposer sur ce laurier. Ça, c'est juste une étape qu'on vient de franchir. Faut profiter de la victoire et switcher rapidement. Car ça va très vite, faut switcher rapidement, faut mettre les choses en place pour la suite.
Et à Abidjan, il est 7h42, je vous laisse avec Andréane Mellard.
Merci Vincent Dublanche, belle journée à vous.